Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, le débat, regard sur notre planète et analyse des menaces qui pourraient peser sur elle, conflits armés, épidémies et ressources naturelles. Nous retrouvons nos invités, Jacques Blamont de l'Académie des sciences et Gérard Chalian, spécialiste de stratégie et de géopolitique. Jacques Blamont, dans votre ouvrage « Introduction au siècle des menaces », vous êtes plutôt globalement assez pessimiste. Vous évoquez les instabilités politiques et sociales qui vont être, c'est probablement le volet à ouvrir pour cette deuxième partie d'émission, qui vont être nourries par d'autres facteurs. Je les évoquais notamment à propos de l'absence de matières premières et de ressources naturelles.
Oui, ce qui se produit à l'heure actuelle, c'est que des grandes masses de population comme la Chine, l'Inde et même l'Amérique du Sud, l'Afrique, se sont converties au productivisme, c'est-à-dire au modèle inventé par l'Europe et les États-Unis au XIXe siècle. Et donc ce productivisme consiste à utiliser à fond, avec les moyens techniques les plus habiles et scientifiques, les ressources naturelles. Or, cette utilisation qui confine au gaspillage par rapport aux ressources stockées croît considérablement. C'est assez curieux. La plupart des augmentations sont de l'ordre de 2% par an. 2% par an, c'est énorme.
En ressources naturelles.
Oui, par exemple, la consommation en énergie, la consommation en eau, ça augmente de l'ordre de 2% par an. Et donc, comme on dit à la bourse, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, ça ne peut pas continuer très longtemps. Alors, si vous voyez cette consommation engendrée par l'augmentation de la population, si vous voyez cette consommation aboutir à la disparition des ressources, à ce moment-là, vous avez une crise. Non seulement une crise, vous avez des crises. Il n'y a pas seulement que la disparition prévue du pétrole dans le courant du siècle, mais il y a beaucoup d'autres pénuries qui vont s'établir, en particulier la pénurie en eau.
Est-ce que la science ne peut pas contribuer à permettre à trouver des solutions, Jacques Blamont ?
Je n'y crois pas du tout, et pour une raison vraiment très simple, très profonde, c'est que je ne vois pas comment plus de productivisme pourrait pallier les maux de l'excès de productivisme. Or, si nous avons des solutions scientifiques, par exemple les OGM, le nucléaire, eh bien, nous aboutissons à une augmentation de la consommation générale. Donc, au niveau de l'évolution, plus on exploitera la nature avec des moyens efficaces, plus la situation évoluera vers la crise.
Gérard Chalian, quel regard portez-vous sur ce que dit Jacques Blamont ?
Je vois bien, d'une certaine façon, qu'on a énormément, au cours des 50 dernières années, consommé des énergies, consommé des ressources naturelles, et que cela, avec la montée de nouvelles puissances comme la Chine, l'Inde, voire le Brésil et d'autres, va effectivement ne faire que s'aggraver. Bon, alors est-ce qu'on va déboucher sur une situation intenable ? Ça, c'est une question, en fin de compte, plus philosophique à mes yeux que scientifique peut-être. On a toujours tendance à penser que, ma foi, on peut peut-être trouver un quelconque palliatif. Par exemple, le nucléaire a beaucoup fait pour l'électricité. Peut-être qu'il y a des choses qu'on peut, comment dirais-je, modifier, on peut peut-être désaliniser l'eau de mer, etc., etc. Mais enfin, de toute façon, avec l'augmentation des populations et surtout dans des lieux où il n'y a pas du tout, justement, la possibilité de résoudre leurs problèmes, je pense que la crise sociale va être aussi grave, en fin de compte, que celle des ressources. Moi, je vois des tensions considérables et le plus mauvais, par exemple, des continents, celui qui me paraît le plus promu à des convulsions profondes, c'est l'Afrique. L'Afrique va encore doubler, et très franchement, je vois très mal le débouché en ce qui concerne l'immigration des Africains en masse ailleurs, et je vois très mal les économies locales absorber cette manœuvre. Donc on va déboucher sur des conflits armés, parce que c'est l'exutoire, et ces conflits armés vont déboucher, comme tous les conflits armés, sur des épidémies. C'est-à-dire, je vois très franchement en Afrique un avenir extraordinairement sombre, très très difficile, et les autres s'en sortiront de façon inégale, mais mieux.
Pour aller dans votre sens, je prendrai l'exemple du Nigeria. Voilà un pays qui a à peu près 148 millions d'habitants aujourd'hui, qui est dans un état de chaos. La capitale Lagos est un gigantesque bidonville. Les écoles et les hôpitaux ne fonctionnent plus. L'exploitation du pétrole se fait dans le racket. Et ces gens-là seront, en 2050, non pas 148, mais 300 millions de gens. C'est-à-dire pas loin de la population de l'Europe.
Et ils démarrent en 1900 avec 17 millions.
Alors donc là, on ne sait pas quoi faire. Parce que la plupart des pays africains sont dans cet état-là. Et donc, qu'est-ce que vous faites avec 300 millions de Nigérians qui ne seront ni éduqués, ni capables d'avoir un système de santé correct? Je vais prendre un autre exemple que je connais un peu et qui m'inquiète beaucoup, c'est celui de l'Inde. Il y a un grand mouvement d'urbanisation de l'Inde. Disons que la révolution verte qui lui a permis de se nourrir depuis les années 60 est en train de chasser les paysans vers les villes. Et je prends l'exemple d'Hyderabad. Voilà une ville qui avait 500 000 habitants il y a en 1970, qui en a 5 millions maintenant. Quand je vais à Hyderabad, ma question c'est quel est le niveau de la nappe phréatique? Voilà le genre de question qu'il faut poser, parce que dans 10 ans, il n'y aura plus de nappe phréatique. Comment est-ce qu'ils feront pour vivre sans eau? Et ceci s'adresse aussi bien, pas à Bombay où la gestion de l'eau est correcte, mais à Madras, par exemple, même chose, 5 millions d'habitants, etc. Le problème est le même en Chine, où la situation est désespérée au point de vue de l'eau. On estime qu'en 2030, il y aura 350 millions de Chinois qui n'auront pas à boire. Que font-ils ?
Le sommet de Copenhague sur le climat, l'environnement, il approche ce sommet, Jacques Blamont. Quel regard portez-vous sur ces rencontres? Est-ce que c'est le lieu d'affrontement par excellence entre ce que vous appelez la population à 50 dollars et celle à 1 dollar?
C'est un lieu d'affrontement, effectivement, parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. Et là, il s'agit, disons, de problèmes réels. Il ne s'agit pas d'inventions politiciennes, mais effectivement, les besoins des gens à 1 dollar et à 50 dollars ne sont pas les mêmes. Et les revendications des pays en voie de développement ne seront pas acceptées par les pays développés. Et c'est la raison pour laquelle je crains que l'affaire de Copenhague se termine par un échec.
Gérard Jallien.
Hautement probable dans la mesure où les intérêts ne sont pas les mêmes et où il n'y a aucune espèce de volonté, en réalité, de modifier cet ordre international. On en a vu beaucoup, vous savez, dans le passé. Moi, il y a un moment que le tiers-monde m'intéresse et chaque fois, il a été question de trouver une formule moins déséquilibrée et à chaque fois, on s'aperçoit qu'en définitive, ce qui est consacré pour ce qu'on appelle l'aide ou ce qu'on appelle une transformation des rapports inégaux ne se fait pas.
Il faut bien comprendre quelque chose qu'a dit le président Bush père. Le niveau de vie des États-Unis n'est pas négociable. Quand vous avez dit ça, vous avez dit beaucoup de choses. Ça veut dire que les riches ne sont pas prêts à donner.
Ni à modifier quoi que ce soit de ce qu'ils estiment être leur façon de vivre. Je crois d'ailleurs que cette façon de vivre n'est véritablement modifiable que lorsqu'il y a une crise comme celle d'aujourd'hui, où on s'aperçoit des excès du système lui-même. C'est-à-dire les excès financiers constatés par certains, comme Stiglitz et d'autres, qui depuis la chute de l'URSS, en définitive, ont fait que les États-Unis, étant l'unique puissance, se sont envolés à divers égards. Un, du point de vue financier. Deux, du point de vue de leur politique menée pendant les années de M. Bush, qui était celle, en fin de compte, d'une tentative d'omnipotence sur la planète et qui, aujourd'hui, débouche sur les problèmes qu'a à gérer M. Obama. Il arrive au plus mauvais moment possible.
Jacques Blamont, la crise économico-financière, vous la voyez comme le fruit précisément de ce dont vous parliez en début d'émission, ces progrès techniques qui ont...
Écoutez, je ne suis pas absolument sûr, parce que pour moi c'est plutôt une crise à la Schumpeter.
C'est-à-dire
une crise du développement normal du capitalisme, ou ce qui a été appelé destruction créatrice, c'est-à-dire le système avance en détruisant des excès. On appelle ça des bulles, on appelle ça des crises. Et j'ai du mal à voir une grande différence entre la bulle actuelle, la crise actuelle, et des crises, mettons, comme celle de 1929 ou bien d'autres. Et donc, c'est une crise américaine, en réalité. Et donc, ça rentre à l'intérieur du schéma normal du capitalisme. La crise à laquelle nous pensons et que nous avons discuté est d'une autre nature, oui, tout à fait différente. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'imaginer que les remèdes qui seront apportés à la solution de la crise actuelle peuvent être utilisés pour gérer la situation mondiale telle que nous la voyons à l'horizon de 20 ou 30 ans.
J'aimerais revenir sur un autre aspect que vous évoquez, Jacques Blamont, c'est la fréquence de renouvellement du progrès technique qui est, vous le dites, de 2 ans. Donc ça va très très vite, on ne sait pas ce que nous aurons de disponible dans 3 ans, 4 ans. Et en revanche, l'absorption par la société des progrès techniques est de 30 ans. Qu'est-ce que veut dire concrètement ce constat ?
Il y a une conséquence immédiate, c'est que nous ne sommes plus du tout capables de concevoir l'avenir. À partir du moment où on a une évolution aussi rapide que celle de la loi de Moore, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, 2 ans, eh bien, il est pratiquement impossible d'établir des scénarios prospectifs qui aient une réalité. Regardez la différence entre notre monde et le monde en 1970-80. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'informatique dans le public, il n'y avait pas de télévision directe, il n'y avait pas de sida. Donc sur un très grand nombre de points, nous avons un monde qui est totalement différent et c'est arrivé seulement en 30 ans. Jamais en 1980, on aurait pu dire ce que serait 2009.
C'est pourquoi d'ailleurs il est également difficile avec certitude de dire qu'en 2050 on va en être là. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est en même temps ne pas admettre que le non prévisible puisse arriver. Vous voyez, moi, si vous voulez, je suis globalement d'accord avec ce que dit Monsieur Blamont, dans la mesure où il indique quels sont les problèmes essentiels. Nous ne sommes pas du tout dans ce qu'on a dans les médias à l'heure actuelle, c'est-à-dire la vente perpétuelle de l'angoisse, avec chaque matin quelque chose qui ne va pas, qui fait qu'on a, nous, dans nos sociétés occidentales, des gens qui finissent par avoir peur de leur propre ombre. La petite crise de la grippe à l'heure actuelle le montre parfaitement. La panique, c'est quelque chose qui se répand en l'espace de quelques heures. Mais là, on touche à des problèmes sérieux, c'est-à-dire effectivement la diminution de ressources naturelles dans un monde qui est en augmentation en ce qui concerne la démographie et en même temps la compétition féroce entre les uns et les autres pour en arracher le maximum. Par contre, où est-ce qu'on va déboucher en 2050 ? Là, à titre personnel, j'en sais rien. Peut-être que dans une certaine mesure, c'est aussi une question de vision du monde. Moi, je crois que quand on a réussi à sortir des cavernes, c'est qu'il y a quand même de l'espoir. C'est que la situation dans laquelle on a dû être jadis ne laissait rien espérer. Et malgré tout, à travers chute et puis en même temps créativité, on est réussi à arriver jusque-là. Et c'est pourquoi je trouve le livre de M. Blamont à la fois remarquable dans son constat et en même temps dans son extrême conclusion, que je vais vous lire, un peu désespéré. Voilà. Il nous dit, en ce qui concerne le monde de 2050, ou en tout cas celui de nos enfants ou les enfants de nos enfants, « seule porte de sortie ouverte à nos enfants, enfiler une combinaison munie de tous les biosenseurs que la loi de Moore saura leur fournir, afin de sentir, voir et toucher virtuellement, avaler une bonne dose d'euphorisant et partir chaque week-end pour le pays des songes avec la star préférée, là-bas, sur une plage d'avant, la 6e extinction, les yeux rivés aux écrans du casque, les volets fermés, sans passé et sans avenir. » J'ai beaucoup de mal à imaginer une humanité sans passé et sans avenir.
Et vous, Jacques Blamont ?
Oui, dans le livre que j'ai publié il y a un mois, qui s'appelle « Lève-toi et marche », j'ai un peu voulu répondre à mes lecteurs qui m'ont accusé à juste titre
d'être trop pessimiste.
De pessimisme. Et la réponse est la suivante. Essayons de trouver une porte de sortie. On voit bien que nous allons vers une crise majeure. Je crois que vous en êtes d'accord.
Oui,
et cette crise, elle est à l'horizon 20-30 ans. Mmh. Il y a trois méthodes. La première méthode, nous l'avons indiqué tout à l'heure, c'est la méthode de recours à la science et à la technologie. Je crains que ce recours ne fasse qu'aggraver l'évolution. La seconde méthode, c'est l'établissement d'une gouvernance mondiale, dans le genre d'une super organisation des Nations Unies, etc. Je dois avouer que je n'y crois pas. Et je n'y crois pas parce qu'il y a une grande partie de la population mondiale qui rejette cette idée. Au fond, l'ONU n'est pas acceptée par les gens à un dollar.
Il faut dire qu'elle n'est plus très représentative de l'état des lieux que l'on peut faire du monde aujourd'hui.
C'est une coquille déjà extrêmement obsolète. Et donc la seule solution que je vois, c'est le recours à des puissances spirituelles, c'est-à-dire un changement de paradigme dans le comportement général des peuples et des nations. La seule solution que j'ai trouvée pour déclencher un mouvement d'ordre spirituel, eh bien, c'est d'avoir recours à des spécialistes du spirituel, c'est-à-dire, au fond, les religions. Quoique je sois tout à fait athée, non religieux, n'appartenant pas à une église, il me semble que c'est un recours à ces spécialistes, et en particulier à ceux qui sont organisés, qui ont une structure, c'est-à-dire essentiellement à l'Église catholique pour commencer. Il me semble que c'est à ces gens-là de bouger. Il faut que ces structures organisées essayent de modifier notre éthique. Car le problème est là. Si nous ne modifions pas l'éthique, notre éthique du comportement et notre, disons, morale, aussi bien internationale que personnelle, eh bien, je ne vois pas comment on peut empêcher les grandes tensions socio-politiques de se nourrir des pénuries.
Peut-on imaginer, Gérard Chalian, l'Église catholique prendre les devants et des initiatives surtout pour...
Les églises, quelles qu'elles soient, essayent. De toute façon, on trouvera toujours aussi dans les églises, au sens large du terme, ceux qui voudront... par politique, instrumentaliser quelque chose qui ne devrait être que spirituel, et ce mélange existe depuis l'aube des temps. Moi, je ne suis pas particulièrement optimiste non plus, en ce qui concerne les pulsions de l'espèce. Je crois que finalement, les sociétés les plus riches ou celles qui parviendront à devenir riches garderont au maximum leurs biens et leur domination, et que ceux qui seront écrasés ailleurs ou à l'intérieur de ces sociétés auront à payer le prix. Je vois ça comme le vieux Thucydide disant que les hommes, comme les dieux, sont mus par la fureur de dominer, et que si vous étiez à notre place, disent-ils à leurs méliens qui sont faibles, vous agiriez comme nous. Et je ne vois rien de changer à cet égard. C'est-à-dire c'est la même façon de se comporter avec des oripeaux plus ou moins distingués comme les droits de l'homme qui, comme chacun le sait s'il a un peu de lucidité, sont à géométrie variable selon que vous êtes un allié ou un adversaire.
Jacques Blamont, vous voulez répondre
non,
à Gérard Chalian?
Je crois que le fond du problème, c'est ce que j'ai appelé la méchanceté de l'homme. C'est-à-dire, c'est dans le cœur de l'homme, son désir d'avoir plus, toujours plus, que réside le problème.
Alors, pour résumer le propos d'aujourd'hui et essayer de trouver une porte de sortie, en tout cas pour notre conversation, ce que je retiens, c'est que le fait qu'un petit État puisse aujourd'hui acquérir les moyens de détruire un grand État, c'est la donnée majeure de ce 21e siècle. C'est une donnée nouvelle. Non, vous n'êtes pas d'accord?
Non. Il ne s'agit pas de détruire pour un faible quelqu'un de fort. Non, simplement que des gens comme des insurgés aujourd'hui disposent de moyens techniques dont ils ne pouvaient pas rêver il y a simplement un demi-siècle, et que cela rend les choses infiniment redoutables. Voilà, c'est ça qui est nouveau. Et l'autre nouveauté étant que, si on parle de conflit, du côté de ceux qui sont les Occidentaux, il y a une sensibilité qui fait que les pertes ne sont pas acceptées. L'autre conclusion, c'est que nous marchons vers une diminution indiscutable de nos ressources et que ça va poser des problèmes. En face de quoi, il ne semble pas que disons, l'ensemble des sociétés organisées que nous sommes détiennent une réponse globale. Chacun va se débrouiller à sa façon comme il peut et disons que ceux qui sont les mieux outillés vont s'en sortir le moins mal.
Donc chacun va se débrouiller comme il peut, ce qui veut dire que ce que vous évoquiez à l'instant, Jacques Blamont, gouvernance mondiale, on peut plus qu'en douter aujourd'hui, peut-être plus que jamais.
Je dois avouer que je suis très sceptique sur la notion de gouvernance mondiale. Il y a eu un rêve qui s'appelait la Société des Nations qui s'est effondré immédiatement dans une catastrophe universelle. Alors, on a essayé de le reconstituer avec l'ONU qui est devenue une enceinte qui est utile. Elle est utile parce qu'elle sert de forum, d'abord, d'expression, et puis aussi, elle permet de mener un certain nombre d'opérations, disons, de maintien de la paix ou de gendarmerie internationale. Mais elle est totalement dépourvue de tout magistère moral ou éthique. Et c'est ça le problème, puisque le problème est éthique.
Est-ce qu'il faut, Gérard Chalian, admettre comme une loi irrévocable que les sociétés technologiques finissent toujours par s'autodétruire ?
Je ne sais pas. Il y a des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elles ont tendance à marcher sur le renforcement de leur puissance et qu'à un moment, l'extension extrême de cette puissance fait qu'elle s'étire à l'excès. Ça s'est vu avec les empires, ça se voit aujourd'hui peut-être avec l'exploitation extrême des ressources terrestres.
Jacques Blamont.
Si l'on pense aux États-Unis, qui sont le consommateur de ressources le plus important du monde, eh bien, est-ce qu'on peut espérer que ces gens-là apporteront une solution? Je ne le crois pas, parce que de même que j'ai toujours dit que la France voyait l'Europe comme une France en plus grand, les États-Unis voient le monde comme les États-Unis en plus grand. Et donc, tout ce qu'ils voudront faire, ça sera d'imposer leur mode de vie et leur mode d'utilisation des ressources de la planète. Et dans ces conditions, puisque les plus puissants sont les promoteurs du pillage, bien, on peut bien penser que tous les autres voudront piller aussi.
Jacques Blamont, en tant que scientifique, vous avez ressenti comme un devoir d'alerte, d'où ce livre sur l'introduction au siècle des menaces.
Oui, et puis c'est un peu un remords, parce que j'ai toujours cru en la science. Et pendant toute ma carrière, j'ai été très fier de participer à un grand mouvement scientifique, le mouvement du XXe siècle. Et puis j'ai compris qu'il se passait quelque chose. C'est depuis les années 70 que la machine s'est emballée, avec l'augmentation exponentielle de la population et surtout l'augmentation considérable de la consommation des ressources naturelles. Et cette consommation repose en grande partie sur la technologie, donc sur la science. Je ne crois pas que la science soit responsable du tout de l'évolution actuelle, mais elle est à son origine.
Gérard Chalian.
Moi, je pense que nous sommes dans des sociétés régies par un système qui pousse à la consommation. On est bien d'accord. C'est-à-dire que ce qu'on espère, c'est provoquer chez moi le désir perpétuellement renouvelé d'avoir davantage de biens qui, pour l'essentiel, ne me sont pas indispensables. Bon, c'est comme ça que marche la machine. Les États-Unis ont été là-dessus extraordinaires, c'est-à-dire qu'on a toujours dit du régime communiste, et il l'était, d'être idéologique, mais le nôtre de système, il est idéologique. Il est de fournir du désir perpétuellement renouvelé. Moi, je rentre de Singapour, je vois que ces gens qui, il y a 60 ans, que j'ai connus il y a, disons, une quarantaine d'années, qui n'avaient rien, aujourd'hui sont prospères, et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils consomment. Ils travaillent et ils consomment et ils veulent toujours plus, toujours plus. Et le soir, ils regardent la télévision qui leur explique ce qu'il faut consommer le lendemain. Ben voilà, on marche là-dedans, dans cette espèce de course absurde qui fait qu'à un moment, ben, vous en avez qui capote, comme ce qui s'est passé avec la crise financière aux États-Unis, parce qu'il y a eu véritablement, chez certains, l'idée qu'il faut absolument faciliter la possession, d'où ces appartements dont on pouvait mettre le down payment et avec lequel on s'endettait. Et aujourd'hui, on a une foule de gens qui sont complètement, si vous voulez, les victimes en quelque sorte d'un système qui leur a expliqué que c'est comme ça qu'on était heureux.
Jacques Blamont,
je prendrai un symbole. c'est le commerce des roses. À l'heure actuelle, il existe un très grand commerce de roses venant de Colombie ou du Kenya qui sont envoyées aux États-Unis ou en Europe par avion. Il y a donc tous les jours un assez grand nombre d'avions cargo qui transportent des fleurs qui vivront une semaine. Et je veux rappeler que l'énergie dépensée pour construire une pyramide d'Égypte correspond à 2 vols transatlantiques d'un Boeing.
Tout est dit, c'est la fin de Géopolitique le débat. Merci à nos invités, Jacques Blamont, auteur de Introduction au siècle des menaces aux éditions Odile Jacob et chez le même éditeur Lève-toi et marche, proposition pour un futur de l'humanité. Gérard Chalian, qui est l'auteur de l'anthologie, notamment de l'anthologie mondiale de la stratégie chez Robert Laffont ou Le nouvel art de la guerre, avec des mémoires qui paraîtront prochainement, je crois. C'est bien cela, Gérard Chalian.
Oui,
Géopolitique était signé Marie-France Chatin. Merci à Camille Deloche et à la documentation de RFI, à Nathalie Laporte pour la réalisation, à Richard Rifono pour la technique. À très bientôt.